Bernard Bessières, vous en êtes rendu au quatrième volume du journal Étonné. Est-ce que vous vous définissez comme un écrivain?
Le mot me paraît très prétentieux. J'écris depuis ma petite enfance, mais ce n'est jamais systématique. J'écris lorsque je suis visité par une sorte de besoin d'exprimer en 3 lignes, en 10 lignes, ce que je suis en train de vivre. Je n'ai pas l'impression d'avoir jamais fait un livre.
Est-ce le même homme qui écrit le journal Étonné et celui qui écrit « Jésus est devant » ou « Le pape a disparu » ?
Ce doit être le même homme, mais vous savez que nous sommes nombreux. Chacun d'entre nous porte en lui une sorte de polyphonie. Quelquefois, je rencontre des gens qui s'étonnent que j'ai pu écrire à la fois « Le pape a disparu » et « Jésus est devant », par exemple.
Dans « Le pape a disparu », on trouve beaucoup d'humour, n'est-ce pas? Et cet humour semble s'estomper dans les différents tomes du journal. On sent plutôt là une tendresse. Est-ce que l'humour disparaît de votre vie? Est-ce qu'il s'estompe vraiment?
Non, il ne disparaît pas. Mais je suis intéressé par ce que vous me dites. Vous savez, on se connaît mal. On connaît mal ce que l'on écrit. C'est finalement à travers les réactions des lecteurs qu'on le découvre. Et beaucoup de gens, en effet, m'ont dit qu'ils enregistraient cette évolution vers la tendresse. Mais je vais revenir vers l'humour. Je viens d'écrire d'ailleurs dernièrement, à la demande d'une revue espagnole, un article sur l'humour dans la Bible.
Et l'humour, il vous vient d'où? De votre bon caractère, de votre tempérament méridional ou d'une réaction contre...
C'est vrai que je suis né au soleil. Mes grands-parents aussi étaient des gens pleins d'humour. Alors j'ai sans doute l'humour dans le sang. Mais je crois aussi qu'il y a des racines proprement chrétiennes de l'humour. La page de la Bible, vous voyez, que je conserverai, je crois, si je n'en avais que 3 ou 4 à choisir, c'est celle qui raconte le rire de Sarah. Sarah qui apprend par d'étranges passagers là, qu'elle aura un enfant alors qu'elle est hors d'âge et que son mari est usé, comme dit le texte de la Genèse. C'est, je crois, une figure de la condition humaine devant Dieu. Nous savons que Dieu peut faire jouer sa fécondité jusque dans la stérilité humaine. C'est là un des fils d'or de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. C'est là, je crois, la racine proprement chrétienne, juive déjà, de l'humour. Nous sommes travaillés par une disproportion. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui se joue en nous. Et comme vous savez, l'humour part toujours de la perception d'un contraste. Mmh.
Vous écrivez un journal, ce qui veut dire que vous vous livrez aux autres. Dans quelle mesure êtes-vous sincère ou ne filtrez-vous pas un peu ces confidences que vous présentez?
Je filtre certainement. Je filtre déjà consciemment. Je n'écris pas toutes les folies qui me traversent. Et je filtre certainement inconsciemment, comme toute personne qui s'exprime, que ce soit oralement ou par écrit. Mais j'ai le sentiment d'aller vers une sincérité croissante. Peut-être que je finirai par tout dire.
Mais comment peut-on écrire un journal? Ça me semble toujours un petit peu étonnant. Justement, vous parlez de journal étonné, mais moi ça me semble toujours étonnant que d'une part on s'astreigne à cette page d'écriture, d'autre part, qu'on livre ainsi ce qu'il y a de plus intérieur, ce qu'il y a de plus intime, de plus personnel aux autres.
Je ne m'astreins pas. Lorsque j'écris, c'est parce que j'ai un choc. J'éprouve une sorte de nécessité intérieure d'écrire. Sinon, je n'écris pas.
Mais ce qui est nécessaire pour vous est-il pour autant nécessaire pour les autres?
Je n'en sais rien. Je communique dans l'écriture un instant où j'ai vécu quelque chose d'une certaine intensité. Alors j'écris dans le métro, j'écris sur le capot d'une voiture, j'écris dans le train, j'écris quand ça m'arrive. C'est pourquoi d'ailleurs mon instrument de travail de base et ce petit carnet à boudin.
Je l'ai toujours à la poche avec bien sûr un crayon, un stylo.
Et je peux écrire sur n'importe quoi. Ça peut être un visage aperçu dans le métro, ça peut être la pensée de Jésus qui m'accompagne souvent, la préparation d'une intervention dans ma paroisse ou à la messe radio. Ça peut être trois lignes ou ça peut être simplement une expression, un petit éclat de pensée et de sensibilité.
Je suis heureux que vous ayez commencé par dire un visage, car ce qui revient constamment, c'est un des thèmes d'ailleurs du journal Étonné, c'est la fascination qu'exercent sur vous les visages.
Oui, c'est une fascination croissante. Et à l'âge où je suis, je me demande pourquoi je n'ai pas dans ma vie antérieure davantage encore considéré les visages. Parce que tout le mystère de l'être humain et aussi tout le mystère de la vie est présent sur les visages. Et là aussi, on retrouve la polyphonie. Vous savez, il suffit d'arriver dans un groupe de personnes ou tout à l'heure dans le métro, vous regardez 5-6 visages autour de vous, ben vous avez tout de la vie là, devant vous.
Et les visages, mais aussi, et vous le dites très simplement, les visages féminins.
Oui.
Les femmes exercent beaucoup de fascination.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.
Intérêt purement esthétique.
Oh, je crois que ça va beaucoup plus loin parce que la rencontre de l'homme et de la femme, c'est une des réalités les plus fondamentales de notre vie. Nous n'existons pas simplement homme ou femme. La vie proprement humaine se joue là dans cette rencontre sous des formes extrêmement variées. Il y a bien sûr un immense arc-en-ciel de la rencontre. Vous savez, quand il nous est dit dans la Bible que Dieu créa l'homme, homme et femme, ça va très loin. C'est la perception très forte que ni la femme ni l'homme ne sont des êtres complets. Alors c'est vrai que je suis assez fasciné par les visages féminins, sans exclure les visages masculins.
Et vous êtes prêtre?
Oui.
Comment vous vivez ce rapport à la femme dans votre sacerdoce?
Oh, je le vis de beaucoup de manières. Mais là aussi, si je regarde l'évolution, il fut un temps où j'étais, je crois, dans la rencontre des femmes assez raidies, parce que j'avais peur. Et je suis de moins en moins raidie. J'ai le privilège aussi de connaître des amitiés féminines profondes, très, très limpides. Et c'est pour moi une grande joie, très, très tonique, très vivifiante. Vous savez que le père Thierry Chardin a écrit quelque part: je n'ai jamais rien accompli de grand dans ma vie que sous le regard d'une femme. Moi, je pourrais dire que des regards de femmes, souvent, m'ont beaucoup aidé à vivre et à chercher à donner le meilleur de moi-même. Et je leur en suis très profondément reconnaissant.
Dans votre journal, je reviens toujours à lui parce qu'il jalonne un peu vos autres œuvres, vos autres écrits. Vous dites que de plus en plus vous êtes préoccupé, habité par la personne de Jésus et que de plus en plus vous avez envie de parler de Jésus.
Oui. Oui. J'ai à la fois envie de parler et envie de me taire. Et depuis depuis peut-être 20 ans, c'est un des éléments de ma vie de prêtre, que cet écartèlement entre le désir d'exprimer et le sentiment qu'il est impossible de bien exprimer, ce qui parfois fait naître en moi très très fort la tentation du silence, même du silence définitif.
Je me demande quelquefois si un jour le silence ne va pas me submerger de l'intérieur.
Et en même temps, désir d'exprimer, car je crois que Jésus est inconnu, ou trop peu connu.
Et vous pensez le connaître ?
Non, je n'arrête pas de faire sa connaissance, de m'étonner de lui, de ses actes d'abord, de la nouveauté qu'il a pu apporter dans la société de son temps, de ses paroles, et aussi du rôle mobilisateur qu'il n'a pas cessé de jouer depuis 20 siècles. Je trouve que c'est, même pour quelqu'un qui n'est pas croyant, la figure de Jésus est fascinante. C'est une sorte de ligne de mire d'humanité. Pas étonnant d'ailleurs que certains penseurs à distance de toute Église aient considéré avec beaucoup d'intensité ce rôle de polarisation, ce rôle de révélation de ce qu'il y a de plus profond à l'homme que joue la figure de Jésus.
Mais comment passe-t-on de l'admiration à la foi qui est la vôtre ?
J'avoue que je ne me suis jamais posé la question, parce que je ne vois pas de solution de continuité. Je crois qu'il est impossible d'avoir foi en Jésus sans l'admirer, sans être profondément étonné de la nouveauté humaine qu'il apporte. Et entre cette admiration, l'écoute profonde de Jésus,
ou même cette affection, enfin je réfère à un titre d'un ouvrage écrit par Petrus Dimitriou, Comment ne pas l'aimer.
Oui, oui.
Donc entre cette admiration, même cette affection et la foi, il y a quand même un saut important.
Pour ma part, je ne fais pas ce saut, parce que j'avance de plein pied.
Vous avez toujours eu la foi ?
J'ai toujours eu la foi, et j'ai toujours porté en moi beaucoup de questions, et même des doutes. J'ai le sentiment que j'ai, depuis mon enfance, un incroyant et un croyant dialoguent dans ma conscience. Mais je me trouve très bien de ce dialogue.
Et vous avouez même que vous avez parfois de la difficulté à répondre à des questions. Je me souviens par exemple d'une anecdote que vous racontez. Vous êtes appelé auprès du châtelain qui va mourir.
Ah oui.
Et il vous demande de réciter le
Je crois en Dieu.
Je crois en Dieu. Oui. Arrive le moment où vous dites je crois en la résurrection. Jésus est ressuscité.
Oui.
Et le châtelain, je vous laisse continuer.
Et c'est après l'expression du credo est monté aux cieux. Alors là, j'ai vu dans le fond de cette chambre obscure la main livide de cet agonisant là se lever. Et il m'a dit, Monsieur le curé, ce corps, où est-il ?
Et vous n'avez pas su
tellement. Je lui ai dit, vous savez, il y a des siècles que des gens très savants se posent cette question. On a écrit beaucoup, mais on n'a encore donné aucune réponse à la question. Vous pouvez continuer, m'a dit. Et le soir, j'ai trouvé sa fille.
Et j'avais eu entre-temps l'impression de ne pas avoir su répondre.
Entre-temps, oui, je me faisais reproche de ma réponse, même parce que je me disais, j'ai peut-être contribué à accroître l'angoisse de cet homme à l'approche de la mort, alors qu'il aurait fallu plutôt chercher à le mettre en paix. Je lui avais répondu en vérité. Et alors, le soir, j'ai trouvé sa fille et je lui dis alors, votre père. Hein. Et elle m'a dit, vous savez, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et lui ce matin, mais il m'a dit, eh bien, il y avait une question qui me préoccupait. Je l'ai posée à ce prêtre et il m'a bien répondu.
Ce qui veut dire que, malgré tout ce que vous pouvez écrire, malgré tout ce que vous pouvez dire, ou l'impuissance que vous ressentez,
oui,
il y a quelque chose d'autre qui se passe.
Oui, et puis la communication n'est pas seulement verbale, hein. La communication, je crois, elle est d'être à être. Mmh. Et quand je lui ai dit ça, il a peut-être perçu que je faisais ce constat moi-même sans en être troublé. Et il y a peut-être eu la communication d'une certaine paix. Mmh.
Mais vous-même, est-ce que il vous arrive d'être angoissé devant les questions que vous vous posez?
Cela m'arrive, mais c'est rare. Je dispose d'un bon tempérament, j'allais dire. Je dors bien et longuement. Je peux me poser des questions assez vertigineuses sans en être angoissé. J'avance dans la vie et vers la mort de manière habituelle en paix.
C'est dans ce sens-là que vous dites Jésus est devant.
Oui, Jésus est devant, et vous savez, j'ai aussi écrit un autre livre dont le titre a quelque peu troublé certaines personnes, parce que c'est l'expression Jésus insaisissable. Ce qui veut dire que on n'atteindra jamais Jésus totalement, qu'on n'en fera pas le tour, qu'aucune formule ne l'exprimera de manière définitive. Pour moi, il y a beaucoup de réalités, vous voyez, qui peuvent être évoquées, mais que l'on ne peut pas véritablement comprendre, enserrer dans les prises de notre intelligence. Il faut suivre.
Il y a une chose qui m'a frappé à la lecture de Jésus est devant, c'est l'attitude que vous développez devant un certain échec social de la foi. Vous racontez deux faits. Le premier, c'est le prophète Élie qui désespère, n'est-ce pas, et qui appelle même la mort. Et vous avez d'ailleurs un commentaire assez impressionnant de cet événement. Donc désespère parce qu'il n'y a plus de croyants, parce que la foi est perdue, semble-t-il, qu'il n'y a que la foi est devenue une denrée rare. La deuxième anecdote, c'est la parabole du semeur. Et vous dites, mais que de semences perdues. Je voudrais savoir comment vous vous situez justement devant la situation actuelle d'une Église qui semble être en perte de vitesse, qui ne semble plus avoir de prégnance sur les réalités sociales. Comment vous vivez ça et quel est votre espoir?
Je le vis bien et mal. Il y a des moments, vous voyez, où, comme tout le monde, comme beaucoup du moins, j'ai quelque peu la nostalgie des unanimités sociales d'autrefois.
Et des belles cérémonies.
Des belles cérémonies, oui. Mais si je dépasse ce réflexe de sensibilité, à ce moment-là, je prends une autre attitude. Je crois que nous sommes en train de vivre un processus de décrassage extrêmement brutal, mais qui peut conduire à une redécouverte de la foi chrétienne beaucoup plus authentique. À l'heure actuelle, par exemple, dans un pays comme la France, il y a beaucoup moins de pratiquants, c'est vrai. On va assister probablement, même au cours des prochaines décennies, à une diminution drastique de ce qu'on appelle la pratique religieuse régulière. Dans beaucoup d'églises, le dimanche, il faut bien percevoir que l'assemblée est grisonnante. Mais ce que l'on peut remarquer en même temps, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont des chrétiens réfléchis, qui prennent des responsabilités dans l'église et aussi dans la société autour d'eux. L'instinct grégaire d'autrefois ne joue plus. Par contre, la personnalisation de la foi, l'échange de qualité entre chrétiens, la prise de responsabilité vont croissante. Ceci est un signe extrêmement positif. Bon, je pense que la crise actuelle, qui est la crise de notre civilisation, avec ses répercussions en tout domaine et en particulier dans l'Église, va conduire, j'allais dire contraindre, à une redécouverte très profonde, très radicale de la foi évangélique.
Est-ce que cela veut dire que les institutions auxquelles souvent on identifiait l'Église vont devoir elles aussi se transformer? Paroisse, diocèse, enfin tout cet appareil.
Cette transformation est en cours.
Vous-même, d'ailleurs, vous êtes plus ou moins marginal par rapport à cette institution. Vous n'avez pas de charge paroissiale, Vous êtes un...
Je joue un peu le rôle de vicaire du curé de ma paroisse, dans mon village rural. Je suis, comme on dit, aumônier d'une équipe d'instituteurs publics qui se réunissent régulièrement pour réfléchir dans leur foi. Mais c'est vrai, oui, que je ne suis pas, de manière habituelle, engagé dans le quadrillage territorial, si je puis dire. Mmh. Mais je ne suis pas marginal pour autant.
Comment vous vous définissez par rapport à la grande institution qu'est l'Église ?
Votre question me surprend un peu, parce que je ne cherche pas beaucoup à me définir. Mais volontiers, avec quelques espièglerie, je reprendrai un mot de Sullivan. Et je dirais que j'essaie d'être un libre penseur chrétien. Ce qui n'est pas une formule facile, car penseur, c'est beaucoup dire. La liberté, ce n'est pas une aventure banale. Et puis chrétien, ça suppose aussi qu'on la vit avec d'autres en communauté. Mais cette expression me plairait assez.
C'est dans cette espèce de territoire que vous essayez d'évoluer.
Voilà.
Quand on lit le journal Étonné, au fur et à mesure que l'on avance dans ces pages, on sent de plus en plus la présence de personnes âgées et de morts. La mort vous a frappé, je pense, assez lourdement.
Oui, elle m'a frappé assez lourdement dans ma famille. Et puis aussi chez mes amis. Je suis à l'âge de la vie où on va de temps en temps participer à des obsèques ou prendre place à côté de personnes aimées pour une séparation. Alors c'est assez... Cela fait partie, je crois, de la saison de la vie dans laquelle je me trouve, que de constater la présence de la mort autour de soi, et aussi sans doute de commencer à se préparer tout doucement à ce passage pour soi-même.
Et pourtant, il y a une attention très forte à la vie dans ce qu'elle a souvent de plus simple. Le petit chat qu'une nièce vous apporte, ce coq qui a des comportements très agressifs. Oui. Donc, une attention à la vie dans ses formes les plus simples.
Oui, oui. De plus en plus, je m'intéresse aux petits riens de la vie. Peut-être aussi est-ce un effet de l'âge. J'ai le sentiment que plus je vais avancer dans la vie, si je m'avance encore quelque peu, plus tout va retenir mon attention et m'étonner. Tout. Mais je constate ce fait aussi chez des personnes plus âgées que moi. J'ai l'impression que je vais arriver au bout de la vie, alors dans une espèce d'étonnement total.
Étonnement, c'est quoi l'étonnement ?
C'est un mot qui est important pour moi, mais que j'aurais du mal à définir. Je crois que l'étonnement, c'est le contact avec l'être. La surprise de constater que des personnes, des choses existent. C'est un sentiment, je crois, très premier.
Et ça s'arrête là ou ça vous conduit à autre chose, cet étonnement ?
L'étonnement, je crois, atteint son sommet devant, d'une part, la beauté. Il faudrait évoquer tout ce que représente l'art dans la vie humaine. Ou le visage. Devant le visage, je crois que la beauté, l'étonnement, est à un seuil ultime. Dans le visage d'un homme ou d'une femme, se révèle une sorte de transcendance. Devant des yeux, devant l'infinie variété des expressions que peut prendre un visage, je sens qu'il y a plus que l'humain. Pour moi, c'est... En même temps que très volontiers je donne mon regard au visage, je sens qu'il y a un visage des visages.
Ce visage des visages, vous lui donnez un nom.
Je pourrais lui donner le nom de Jésus, mais il y a même, je crois, un au-delà de tous les visages. Mais ici, nous arrivons dans la ténèbre lumineuse ou dans la lumière ténébreuse auquel nous donnons, parce qu'il faut bien donner des noms, le nom de Dieu.
C'est pas facile pour vous de prononcer ce nom, Dieu.
Non,
vous le dites d'ailleurs
parce
régulièrement.
Vous savez, on en a tellement abusé que n'a-t-on pas fait du nom de Dieu.
On a fait des guerres au nom de Dieu.
Eh oui. J'aime aussi que ce soit un monosyllabe, qu'on le tienne à peine dans la bouche, qu'il s'enfuit, voyez, le mot Dieu. J'aimerais pas un mot en deux ou trois syllabes. J'aimerais pas un mot même avec des consonnes dures. J'aime bien qu'il soit. Mais nous sommes aussi devant une des nécessités ardentes, je crois, de notre époque, c'est que tout un langage religieux est usé par ce qu'on a fait de lui. Je crois que tout un langage religieux n'atteint plus l'oreille de nos contemporains parce qu'ils croient savoir et ils ne savent pas. Parce qu'une hypothèque historique, plusieurs fois séculaire, pèse sur tous ces mots. Il faudrait dépoussiérer peut-être aussi, alors, pour en revenir à la crise religieuse qu'on évoquait tout à l'heure, peut-être est-il bon d'oublier pour redécouvrir. Il y a des mots, pour ma part, que je n'utilise jamais, parce qu'ils sont trop beaux et qui ne peuvent pas être bien entendus. Je vous en dirai un, par exemple. Un des plus beaux mots du langage chrétien, c'est le mot « grâce ». La grâce qui est l'élégance, la grâce qui est rendre grâce, la grâce qui est faire grâce. Voilà un mot splendide par le jeu d'harmonie qui l'entoure. Mais on a tellement parlé de grâce habituelle, de grâce actuelle, on va prier pour obtenir une petite grâce, etc., que ce pauvre mot a été complètement vidé de lui-même. Alors moi, je ne l'emploie pas, sauf à l'instant-là, je ne l'emploie pas, j'attends qu'on l'ait oublié pour le faire revivre. Mais sans doute serais-je mort.
Mais c'est justement, c'est un beau projet pour un prêtre écrivain de faire revivre.
C'est vrai, de ressusciter un mot, de lui rendre sa vie, sa force. Oui.
Comment ça se concilie justement, cette vie d'écrivain et cette vie de prêtre? Comment ça se rejoint? Quelle est l'unité de tout ça?
Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que vous savez, je suis comme beaucoup sans doute, je vis. Et à certains moments, je cherche à avoir une conscience réflexe de ce que je vis. Mais souvent, je ne m'en préoccupe pas.
Vous n'avez jamais pensé, comme Sullivan, écrire des romans?
Si. Aussi, il y a longtemps que ça me travaille. Mais j'ai même un certain nombre de scénarios ou d'histoires qui me hantent. Mais jusqu'à maintenant, c'est le temps qui m'a toujours manqué.
Et vous parlez de vous-même?
Oui.
Et de ce qui est le plus essentiel pour vous?
Oui. J'ai écrit, par contre, alors avec beaucoup de joie, des contes. Mais le conte est une unité d'écriture courte. Lorsqu'on est vraiment hanté par une petite histoire, il faut 3 heures pour écrire un conte, au moins en premier jet, même si ensuite il faut bien sûr retravailler son texte. Tandis qu'écrire un roman, c'est une entreprise considérable. Et ça suppose aussi que, comment dire, qu'on se laisse habiter, en fait, qu'on se dédouble en quelque sorte. Or, je suis déjà très distrait par tempérament. Si je me mettais à écrire un roman, je ne sais pas ce qui va m'arriver.
Vous préférez parler de vous-même et de ce qui vous habite.
C'est plus à ma portée pour le moment. Mais je souhaite un jour avoir le temps d'écrire un roman.
Gérard Bessières, je vous remercie.